Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Le commentaire de
Luc Laliberté, une vision américaine, pas comme les autres.
Mon cher Luc, je te lis et plus je te lis, plus je me dis, advenant un résultat serré aux prochaines élections américaines, on dirait que ni un côté ni l'autre est prêt à concéder, à reconnaître la défaite. On dirait qu'ils vont se battre jusqu'au bout.
Ah, écoute, ça va être une période, surtout que le système américain, en guillemets, permet ça. Mais ça va être une transition difficile. Hein? Les gens, on le répète à l'occasion, mais les gens pensent que le 3 novembre ou le 4 ou le 5, là, dépendamment du temps qu'on va prendre de dépouiller l'ensemble des bulletins, les gens pensent que ça se règle là, mais ça se fait vraiment en trois étapes. Et il y a une longue, à mon avis maintenant, en 2020, trop longue période entre le moment où on va aller voter et le moment où Joe Biden ou Donald Trump, s'il est réélu, mais le moment où on va avoir la sermentation. Il va falloir faire le mois de novembre, le mois de décembre, puis une bonne partie du mois de janvier, avant que Donald Trump ne se réinstalle officiellement, ou encore que Joe Biden prête serment. Et on peut sincèrement, légitimement se demander ce qui va se passer entre les deux dates. Et c'est un peu ce que je soulignais dans un article récemment, disant qui est capable d'unir à ce moment-ci les Américains, alors qu'on a souvent, avec raison, dénoncé les milices d'extrême droite, ces gens armés, mais on a vu aussi qu'on est capable de débordements puis de violences de l'autre côté, dans ce qu'on appelle aussi l'extrême-gauche. Donc, qui est capable de réconcilier ces gens-là? Puis je rappelle à nos auditeurs, qui auraient tendance à répondre « Oui, mais on s'en est remis en 2016 », moi, j'ai marché dans les rues avec mes étudiants parce qu'on était à Washington pour la sermentation et le lendemain pour des manifestations, mais on a eu des manifestations records au lendemain de l'élection de 2016 aussi. À New York, là, avec les étudiants, on a observé 250 000 personnes qui ont défilé, cette fois-là pacifiquement. Mais on est allé jusqu'à 300, 400 000 personnes.
Écoutez, ça c'était en 2016, alors que les gens n'étaient pas aussi à cran qu'aujourd'hui.
Voilà.
Parce que Black Lives Matter a comme compliqué l'affaire. Et là, tu dis, et là, tu pèses toujours tes mots quand t'écris, tu parles jamais dans des grandes envolées hystériques, Luc. T'écris, jamais en plus de 25 ans d'enseignement de l'histoire des États-Unis, je n'ai été aussi inquiet pour nos voisins. Tu parles même de possibilité de guerre civile. C'est pas des farces.
J'évoque dans l'article ce matin, dans la chronique ce matin, j'évoque le passé américain pour dire c'est pas la première fois que le pays est aussi divisé que ça. Mais ce qui m'inquiète particulièrement cette année, c'est que même lorsque le pays a été très divisé, il l'était par exemple en 2000, après la fameuse élection très controversée de George W. Bush, mais on a toujours accepté, on a maugré, on est sorti dans la rue, on est manifesté, mais on a toujours accepté de se soumettre aux résultats. Et Al Gore avait fini par le faire en 2000. Puis je remonte même pas plus loin dans l'histoire américaine, mais c'était pas la seule fois. Mais le lien que je fais avec la guerre civile, c'est qu'on l'oublie souvent. Quand la guerre démarre, la guerre de sécession aux États-Unis, c'est que le Sud n'accepte pas le résultat de l'élection de 1860. C'est comme ça que les débordements commencent. Nous, on a associé ça, bien sûr, à la question de l'esclavage ou à la représentation politique du Sud, mais on refuse d'accepter qu'Abraham Lincoln, qui à l'époque avait pas obtenu de vote du tout, de vote des grands électeurs dans le Sud, ne soit finalement un président que du Midwest qui naît à l'époque puis de la côte Est du Nord-Est américain. Donc, la question que je pose là-dedans, grosso modo, c'est est-ce qu'on est capable de les unir avant qu'on s'oppose finalement à ce résultat-là? Que va-t-il arriver? La démocratie, on le sait, elle est très fragile en Occident ces jours-ci, dans l'ensemble du monde occidental. On a quelques régimes qui ont des tendances déjà plus autoritaires. Donc, ma crainte à moi, c'est la démocratie repose sur la confiance. Et on accepte le résultat. Par exemple, on a accepté, même si on le critique souvent, que M. Trudeau soit là avec un gouvernement minoritaire.
Oui.
On a reconnu le résultat. Est-ce qu'on va le reconnaître aux États-Unis? C'est un peu ça que j'exprimais.
Ah ben non. Ben écoute, tu dis, là, on aurait besoin d'un nouveau discours de Gettysburg. Le fameux discours de Gettysburg, qui est le discours politique le plus important qui a été prononcé dans l'histoire des États-Unis, c'est Abraham Lincoln, justement, un discours, tu le rappelles, hein, 2 minutes, très court, mais où, justement, il a rassemblé les gens, le Nord et le Sud, en disant, ben là, on est ensemble, on veut-tu être un pays? Qui va pouvoir prononcer un nouveau discours de Gettysburg aujourd'hui pour rassembler ces deux factions, là?
Et Lincoln, ce qui était remarquable dans le discours, c'est qu'il le fait vraiment d'abord en pleine guerre, mais il y a toujours, même en pleine guerre, après une bataille décisive, une main tendue vers le Sud. Les sudistes ne savent pas à quel point ils se font mal, d'ailleurs, à l'époque, en assassinant ou quand un des leurs assassine le président Lincoln. Lincoln avait comme objectif de redémarrer, finalement, l'Union américaine le plus rapidement possible. Et en disparaissant, c'est le seul qui avait le leadership pour faire ça. Et ça a été très long pour que les États du Sud, on l'a oublié, retrouvent leur statut d'État et réintègrent l'Union. Donc, ça a été une période de déchirement dont le Sud s'est remis très tardivement, puis certains l'ont encore sur le cœur. Donc, il faut surtout pas négliger ces divisions-là qui sont très profondes, puis on le constate pratiquement à chaque jour.
Tout à fait. 18 septembre 2020, 9h51, notez l'heure parce que Luc Laliberté va dire quelque chose de positif sur Donald Trump.
J'aime bien l'introduction, le sujet amené, Richard. En fait, je partage partiellement les réserves que Donald Trump a exprimées hier. Il le fait à la Donald Trump, puis il fait quelque chose de très, très politique, mais bon, en campagne électorale, on s'y attend un peu. C'est-à-dire que le président s'est exprimé hier. Ça m'a un peu fait sourire d'abord, parce qu'il la maîtrise pas très bien, son histoire, mais il s'est exprimé au sujet de l'histoire, l'enseignement de l'histoire des États-Unis. Et finalement, ce qu'il voudrait, c'est créer une commission, parce qu'en fait, Donald Trump, tout comme le gouvernement fédéral, n'a rien à dire dans les programmes d'enseignement des différents États. C'est un des pouvoirs, finalement, qui ne relève pas du fédéral, mais qui est confié au gouverneur pour législature d'État. Donc, Donald Trump, lui, trouve que, entre autres, il réagit à un projet dont je voulais te parler, mais il trouve que, tranquillement, on est en train de dévier le discours de l'histoire américaine, puis il apprécie pas ce qu'il voit, puis il considère que c'est une influence beaucoup trop grande de la gauche ou de ce que lui présente comme l'extrême-gauche. Donc, il dit, finalement, on va enseigner une histoire patriotique. Le bout patriotique, j'ai de la difficulté avec. Mmh. Donc, c'est pas une version, la version whitewashed, comme on dit. Hein. C'est le cas de le dire dans ce cas-ci, c'est un bien mauvais jeu de mots, mais c'est une question de blanchir l'histoire. Donc, M. Trump dit, moi, je vais faire une commission, puis on va enseigner l'histoire nationale, finalement, sur le sens du monde, en se rappelant nos héros. De l'autre côté, à quoi il réagissait, c'est de ça dont je voulais te parler, c'est là où je le rejoins, le président américain, et comme historien plus que comme analyste politique, il y a un projet qui est né dans les pages New York Times qui s'appelle le projet 1619.
Okay.
Et au départ, moi, 1619, c'est l'arrivée des premiers esclaves aux États-Unis. Et l'idée du projet, et j'étais enthousiaste au départ et je trouvais l'intérêt très noble, c'est grosso modo, voyons l'histoire des États-Unis depuis 1619, mais sous l'œil des esclaves et des descendants d'esclaves. Et je me disais, ben ça, tout comme on a eu différents courants en histoire, on enseignait à un moment donné l'histoire plus des femmes, plus des ouvriers. Mm-hmm. Je me disais, ben c'est tout à fait louable et ça va sensibiliser les gens à des revendications actuelles. Là où j'éprouve beaucoup de difficultés, pardon, et là où beaucoup d'historiens, des gros noms en histoire américaine sont intervenus, c'est pour dire, vous ne faites pas qu'enseigner l'histoire du point de vue des Noirs, vous ajoutez à ça des notions qui sont fausses et vous créez finalement un nouveau discours. Et je te donne un exemple, c'est celui qui m'a frappé le plus. En 1776, les Américains aujourd'hui, qu'ils soient de gauche, de droite, ils se rappellent 1776 puis l'indépendance des États-Unis. Puis ils disent finalement, on s'est battu pour la liberté, on va implanter la démocratie, on va changer de régime politique. Et honnêtement, ce que font les Américains après 1776, quand ils font naître le pays, c'est du jamais vu. Donc ça, je pense que ça mérite d'être souligné. On peut après ça enseigner les dérives, les forces, les faiblesses, les limites. Mais ils font quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Ce qu'on enseigne maintenant avec le projet 1619, c'est que l'indépendance américaine a été faite essentiellement pour maintenir l'esclavage aux États-Unis. Donc, c'est là où il y a tout un dérapage.
Excuse-moi, je te pose une question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, factuellement?
Non, voilà. C'est là où les historiens, moi, c'est là où j'ai débarqué de ce projet-là dont j'avais déjà parlé à mes étudiants en disant, on va le suivre, un peu de loin, bien sûr, mais on va suivre un peu ce qu'on présente là-dedans, puis on va récupérer. C'est bien de nuancer des choses. Et c'est vrai que l'histoire des Noirs, bien des Américains ou des esclaves, de l'esclavage, les Américains l'ont oublié dans certains cas. On parle du grand public. Mais là où j'ai débarqué, puis ensuite, j'ai vu des réactions vigoureuses et j'étais content d'historiens réputés, de têtes solides en histoire l'histoire américaine, qui sont intervenus pour dire, écoutez, si on pense que votre projet à l'origine est bon, là, vous dérapez. Mmh. Et on ne peut pas changer une interprétation ou inventer une interprétation historique parce qu'il n'y a rien qui vient valider ça. Ta question, elle est bonne, c'est celle qu'on s'est posée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut dire ça? Il n'y a rien qui vient supporter ça. Et ce qu'on dit, grosso modo, dans le projet 1619, c'est, ben, comme l'Angleterre avait condamné la traite des Noirs, les sudistes avaient peur, bien entendu, eux qui faisaient beaucoup de commerce avec l'Angleterre à l'époque, c'était un grand partenaire commercial, ben, ils avaient peur, éventuellement, si on demeurait dans le giron de l'Empire britannique, de perdre cette traite des Noirs et donc de perdre l'esclavage. Mais il n'y a rien qui vient appuyer ça. On a des comptes rendus, hein, puis des documents historiques qui relatent les discussions des pères fondateurs, des délégués des 13 colonies. Donc, à mon avis, dans ce cas-là, il s'agit d'un dérapage important et il y en a d'autres.
Mais Luc, je vais te poser une question existentielle. Oui. Toi qui es un prof d'histoire, est-ce que c'est possible d'enseigner l'histoire de façon objective? Moi, j'ai l'impression que l'enseignement de l'histoire est toujours teinté d'idéologie, que ce soit de gauche ou de droite.
Tout à fait. Je vais te dire, d'ailleurs, c'est une des choses, c'est bien, parce que quand on commence nos cours d'histoire, les collègues le font aussi, on définit toujours un peu notre discipline. Puis en quoi notre discipline, elle prétend être scientifique. Et ça, j'en suis un ardent défenseur. Mais je leur dis, on est scientifique dans notre méthode, dans notre approche. L'important, parce que je leur disais, l'histoire, c'est toujours subjectif, ne serait-ce qu'au point de départ.
Oui.
Pourquoi je vous parle d'un sujet? Pourquoi j'aborde celui-là plutôt qu'un autre? Je pourrais être le meilleur des historiens, le plus professionnel, je viens déjà de faire un choix, donc je viens déjà de choisir un angle. Là où ça devient très important par la suite, et c'est ce que je reproche au projet 1619, ben c'est que quand on émet des hypothèses de travail et qu'on effectue notre démonstration, on se doit d'être parfaitement transparent et de toujours appuyer ce qu'on avance de source. Mmh. Donc, le rêve d'une histoire qui est totalement objective, c'est un rêve, c'est une illusion, mais à partir du moment où on effectue des choix, peu importe lesquels, bien sûr, on espère que ce n'est pas des choix de déformation volontaire. À partir du moment où on est très, très rigoureux dans la sélection des sources puis dans la transparence de la démarche, ben ça devient un peu comme aujourd'hui, on fait plein d'essais sur des vaccins puis que les mauvais vaccins comme les bons permettent d'évacuer des options puis d'aller dans la bonne direction. Quand on construit le discours historique, la confrontation des hypothèses, c'est ce qui permet d'arriver à une vision qui est plus juste.
Très intéressant, cela dit, on peut quand même sourire que c'est Donald Trump qui arrive avec ses critiques. Donald Trump a déjà dit que la grippe espagnole avait mis fin à la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, ben voilà, c'est là où je souris. C'est qu'il la connaît très mal, son histoire. Là, c'est lui qui pensait que Frédéric Douglass, qui est un noir abolitionniste du début du 19e siècle, que M. Douglass était encore en vie puis que c'était un bon gars. Donc,
oui, puis tu sais, aussi, il parlait des forces d'aviation alors qu'à l'époque, l'avion n'existait même pas. Il parlait d'une guerre où il y avait des forces aériennes dans cette guerre-là alors que l'avion n'avait même pas été inventé. Mais
c'était un peu drôle que ça vienne de lui, oui. Mais si je suis en désaccord avec ce qu'il veut faire au plan historique, je ne pouvais cette fois-là qu'appuyer son désir de dénoncer cette dérive ou ce dérapage-là qu'il y a de l'autre côté. Et effectivement, c'était sage de le faire. Ce qu'il va en faire ensuite, ben là, je me réserve le droit de débarquer du train éventuellement.
Toujours passionnant de te parler, Luc. C'est vraiment un bonheur. Merci beaucoup. Bon week-end, Luc Laliberté.
Écoute, c'est un plaisir partagé, puis un bon week-end à toi aussi.
Salut.